Moi, je voudrais savoir combien M. Mermet est payé pour faire une émission où il ne fout rien qu'écouter et laisser parler une bande d'imbéciles, mais absolument, il est allé les chercher, je sais pas où, mais vraiment, c'est incroyable. Ce qu'on peut entendre comme conneries, c'est énorme. Alors, si en plus il est payé pour faire ça, eh ben, bravo, hein, il est drôlement dégourdi. Félicitations.
Salut, bon ben voilà, moi j'appelle parce que je suis professeur des écoles, c'est-à-dire instit, donc fonctionnaire, et puis je grogne. Alors pourquoi je grogne? En particulier pour les salaires, parce que je suis fonctionnaire, donc inutile et surpayé, et puis je cherche moi surpayé, parce que qu'est-ce que ça veut dire surpayé quand on est professeur des écoles? C'est 1550 euros par mois après 4 ans d'études et puis 7 ans d'ancienneté. Contrairement à ce que croient beaucoup de gens, j'ai pas de prime, j'ai pas de 13e mois, j'ai pas de comité d'entreprise, j'ai pas d'emprunt à des taux favorisés. Et j'en ai marre, quoi. J'en ai marre de rendre service et puis de pas être reconnu, de pas être payé et de pas être considéré. Donc il paraît qu'on a plein de privilèges, je les cherche encore.
Oui, bonsoir Daniel, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir aux auditeurs. Voilà, je suis un cadre moyen dans une petite entreprise. J'ai un salaire qui n'a pas évolué depuis 10 mois et aujourd'hui je rejoins les millions de Français qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Ce petit message, je voudrais l'adresser aux fonctionnaires et leur apporter mon soutien, c'est-à-dire qu'ils mènent aujourd'hui un combat que moi je ne peux pas mener. Ils le mènent à ma place et je ne tombe pas dans les propos démagogiques qui tendent à laisser penser que les gens de grève sont payés, donc je sais qu'ils font ça sur leurs données personnelles. Donc voilà, je tenais à les en remercier et de leur souhaiter de continuer, de mener encore demain de mener notre combat. Voilà, la vie continue. Bye bye à tous.
Hier soir, j'ai regardé l'émission d'Arte qui était consacrée, s'appelait « La mégapanne du mégawatt ». J'espère que beaucoup de gens l'ont regardé parce que ça donne une idée de ce qui nous attend le jour où EDF ne sera plus au service public. Au revoir.
Oui, bonjour à toute l'équipe de France Inter. J'ai entendu ce matin, avant 9h, intervenant dire que le service public était défendu uniquement par les fonctionnaires. Je trouve ça un peu gros, quoi. Alors qu'il y a des sondages disent que 65% des Français sont pour le service public. Moi, personnellement, je suis artisan et je suis pour le service public parce qu'il me semble que c'est quand même une petite qualité et pas trop cher. Et si on privatise, ce qui est sûr, c'est qu'on verra nos factures d'EDF et de téléphone et tout ça. Déjà, le téléphone, c'est commencé, mais grossir. Et donc, voilà. Moi, vive le service public. C'est Philippe de Trutner.
Ouais, j'espère que je vais y arriver parce que je suis très en colère. Je voulais dire simplement que je fais partie de quelques centaines de milliers de fainéants qui sont payés par l'État. Je fais partie de la fonction publique hospitalière et on nous donne gracieusement 2000 euros par mois pour sauver la vie des gens. Alors je voulais dire à ce monsieur là tout à l'heure qui a appelé, qui a laissé un message sur le répondeur, que on sauve la vie de tout le monde, des RMistes, des chômeurs en fin de droit, des fonctionnaires, et puis même de ceux qui laissent des messages horribles sur le répondeur de là-bas si j'y suis. Et je voulais dire à ce monsieur que je lui donne un conseil simple, c'est que sur RTL, il y a un monsieur qui s'appelle Philippe Bouvard qui aime bien dire du mal des fonctionnaires, surtout des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière. Alors je pense que il s'est un peu trompé en réglant sa radio et qu'il faudrait qu'il écoute RTL, comme ça il en aurait pour son compte. Et là-bas, ils aiment bien dire du mal des fonctionnaires. Puis nous, de notre côté, on va continuer à écouter là-bas si j'y suis. Puis en même temps, on va continuer à sauver la vie des gens.
Et voilà, c'est comme ça qu'on perd des auditeurs avec des auditeurs qui envoient les auditeurs écouter une autre radio. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Très difficile aujourd'hui de trouver dans le répondeur de là-bas si j'y suis des messages contre le service public et contre les fonctionnaires. Il n'y en avait vraiment pas beaucoup dans cette... dans le panier du jour, je dis panier parce que l'autre jour j'ai comparé vos messages à des œufs que les poules pondent chaque jour. Alors il y a des auditeurs que ça a pas trop amusé, d'autres que ça a amusé, mais c'est pas tout le monde. Aujourd'hui on continue la balade au Venezuela et on va s'intéresser aux médias vénézuéliens parce que les médias, notamment les TV, ont joué un rôle très très important dans tout ce conflit depuis le début, depuis 98 et notamment dans le coup d'État d'avril 2001. Et on va voir comment les médias sont un enjeu majeur dans cette dans ce pays, comme ailleurs d'ailleurs. Je ne citerai aucun pays en particulier. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base, si j'y suis, de très très beaux messages qui vont suivre au 01 56 40 37 37.
Donc, de la part de Monsieur Philippe Cléris, 8 rue du Marais à Saint-Étienne. Lettre au préfet de l'Hérault. Monsieur le préfet, j'apprends la veille, en écoutant le journal de 13h de France Culture, que les artistes originaires du Cameroun sont menacés par vous d'être expulsés à tout moment, bien qu'ils aient un contrat de travail en bonne et due forme pour participer avec une compagnie de danse de Montpellier à un projet artistique validé par la DRAC. Ceci parce qu'ils n'avaient pas pris soin de faire les démarches administratives nécessaires dans leur pays d'origine. J'apprends en outre que ces artistes ont déjà fait 48 heures de garde à vue et que vos persécutions, je ne trouve hélas pas d'autre mot, nuisent grandement à la réalisation d'un beau projet de rencontre culturelle entre les peuples. J'apprends enfin que la compagnie de danse a été déboutée de son recours contre vous devant le tribunal administratif. Aussi, monsieur le préfet, vous me permettrez de bien vouloir apprendre de moi ce qui suit. Premièrement, mon indignation et mon mépris pour vous, mais vous n'en aurez cure. Deuxièmement, ma honte d'être le citoyen d'un pays où sévit le monstre froid et discrétionnaire de l'administration préfectorale, toujours aux ordres de la raison d'État. Troisièmement, ma peur de rencontrer un jour sur ma route votre monde glacé de papiers, de murs et de barreaux. Pour l'heure, je ne suis pas encore concerné. J'ai la peau pâle et le porte-monnaie bien garni pour circuler en liberté dans les pisseries France. Enfin, vous me direz que ce courrier est insignifiant puisqu'excessif, et vous aurez raison. Vous avez d'ailleurs toujours raison. Cela doit être écrit quelque part dans une circulaire. C'est pour cela que vous me faites peur, car vous êtes un représentant de la meilleure administration du monde, comme on disait après 1940. C'était donc Philippe de Saint-Étienne.
Je suis Béral Mbaïkoubou, étudiant tchadien, non-voyant à l'université de Lille 3. Eh bien, ça fait bien longtemps, Monsieur Daniel, que j'écoute votre émission et je vous en félicite infiniment. Ben, mon intervention aujourd'hui serait pour parler du phénomène de ségrégation qui devient aujourd'hui comme une façon pour les hommes de se nourrir au miel de leur vieille plaie. Je voudrais parler de ceux-là qui aujourd'hui voient en toute critique une exclusion raciste, en toute critique une ségrégation telle que l'on ne puisse plus critiquer la politique africaine parce que ce serait du racisme, l'on ne puisse plus parler du mauvais comportement de la politique israélienne parce que ce serait de l'antisionisme. Je voudrais qu'on arrête ces propagandes mensongères anachroniques pour prendre les problèmes en face et qu'enfin toute réalité ne soit pas assimilée à de la ségrégation. Moi, je pense que c'est de la mauvaise foi. Il faudrait qu'on l'arrête. C'était Béral, étudiant en première année de licence philosophie Lille 3. Salut Daniel et merci bien, à bientôt.
Durante los próximos minutos conoceremos hechos claves de una historia que los medios privados de comunicación ocultaron sobre la masacre de Puente Yagún.
Buenos días, tenemos nuevo presidente.
Debo decirlo, gracias Venevisión, gracias RCTV.
Gracias Televen. Gracias CMT, gracias Globovisión,
gracias medios de comunicación.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Antoine Chao et Guy Ventil. Où à Venezuela?
République Bolivariana de Venezuela.
Globovisión es la porquería más sucia que hay.
Pero todo lo dice un medio de comunicación.
Contre mal,
la más porquería son un Globovisión.
Es un Globovisión.
Globovisión no sirve, son unos ladrones.
Ce sont des voleurs, ils ne servent a rien, ce sont des terroristes.
No, no me gusta Globovisión para nada.
Moi, j'aime pas Globovisión non plus.
Ninguno de esos canales me gusta.
Aucune de ces chaînes privées ne me plaît.
A veces tiende a parcializar en vez de ser imparcial.
Eux, au lieu d'être impartiaux, ils sont de parti pris. Y Vive TV.
Vive TV, está bien. Tiene una programación buena.
Vive TV, c'est bien, c'est une bonne programmation.
Que Vive TV, en estos días estuve observando parte de su programación. Un programa, coño, realmente fue bastante interesante, porque más que todo enfoca en programas culturales.
Oui, Vive, c'est bien, parce qu'ils font des programmes plus culturels, éducatifs.
Vous avez compris, là-dedans, il y a les bons et les méchants. Les méchants, aujourd'hui, c'est Globo, Globo TV, et les gentils, c'est Vive TV. Le, au Venezuela, il y a cet affrontement politique, social, radical entre, disons, pour simplifier, classe riche et classe pauvre. Et c'est une guerre civile symbolique. On a réussi à éviter, en gros, la violence, si on veut bien mettre de côté quand même un coup d'État, ce qui n'est pas rien, mais qui a duré très peu de temps, qui a duré 3 jours. Si on met de côté aussi cette longue grève patronale qui a mis le pays à plat, on a quand même évité ce que tout le monde prévoyait, c'est-à-dire la guerre civile. Aujourd'hui, après les récents succès de l'actuel président Hugo Chavez Frias, il y a une accalmie, apparente accalmie au Venezuela. L'opposition, il faut dire, est complètement à plat, complètement en déroute, et Chavez est seul à la barre, porté par cette vague rouge, comme on dit, et il a été conforté par donc ces récentes élections. C'est pas pour autant qu'il détient toutes les clés du pays. Loin s'en faut. L'administration, l'appareil d'État, lui, sont largement hostiles. Par exemple, comme militaire, il peut compter sur l'armée, qui est un élément évidemment très important de la vie de ce pays, mais peut-être pas entièrement. On dit que les services secrets ne lui sont pas du tout favorables. Et ainsi de suite. Donc, c'est pas évident, mais voilà, il s'accroche aux branches et le pays avec lui, le pays tout entier avec lui, ils sont en train de vivre une aventure tout à fait singulière. On avait comparé, souvenez-vous, dans les premiers jours de ces voyages au Venezuela, ce pays comme un bateau en pleine mer, à l'intérieur duquel capitaine et passager essayaient de tout changer, depuis le moteur jusqu'à l'orientation, même jusqu'au gouvernail même du bateau, la disposition des premières et des secondes, etc. Eh bien, c'est bel et bien ce qui se passe. Et bien sûr que dans toutes ces transformations, il y a la question des médias. C'est dans ce pays, comme dans bien d'autres, un enjeu majeur. On va voir comment, lors de ces conflits, notamment du coup d'État, les médias ont joué un rôle très important. 80% des médias sont privés et hostiles, mais alors, plus que ça, opposés, radicalement opposés à Chavez. Et comment, eh ben, ce gouvernement, je le rappelle, élu, démocratiquement élu, essaye d'installer d'autres médias, un contre-feu à ces médias privés qui sont hostiles. Et comment il le fait, de quelle façon et avec qui il le fait. C'est jusqu'à 18h, c'est là-bas si j'y suis, ou à Venezuela.
Buenos días, tenemos nuevo presidente.
Debo decirlo, gracias Venevisión.
Bonjour, nous avons un nouveau président. Je dois dire merci RCTV, merci Venevisión. Et nous, on doit ajouter aussi merci Televen, merci CMT, merci Globovision. Enfin, merci tous les médias. Voilà, nous écoutions Napoléon Bravo, un présentateur animateur d'une des chaînes privées et un des militaires qui avait participé au putsch. Le militaire remercie les deux principales chaînes privées. Ensuite, le journaliste animateur, qui avait ouvert ainsi les premières émissions après le lendemain du putsch, ajoute les noms de toutes les autres chaînes privées. Il remercie tous les médias qui ont été, à leurs yeux, l'arme principale du putsch, le fer de lance de l'opposition.
Debo decirlo, gracias Venevisión. Gracias RCTV.
Yo voy a decir una cosa. Gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión, gracias medios de comunicación.
¿Y tú? Estás en buenas manos.
Alors voilà, c'était le jour du coup d'État, en avril 2002, les télévisions qui se congratulent entre elles. C'est un petit peu comme si on avait un coup d'État en France et que, voilà, c'est le coup d'État. Et on dit merci Monsieur Lagardère, merci Monsieur Bouygues, bravo Monsieur Dassault, on a réussi. C'est exactement ce qui s'est passé ce matin du coup d'État à Caracas. C'est dire le poids et le rôle qu'ont joué les médias dans ce pays. L'effondrement des partis politiques opposés à Chavez était tel que c'est les médias qui ont relayé et qui ont pris la place des partis politiques et de l'opposition. C'est comparable à ce qui se passe aux États-Unis avec Fox News. C'est ce qui s'est passé, souvenez-vous, en Italie avec Berlusconi, qui a pris le pouvoir en prenant d'abord le pouvoir sur les médias, et rien ne dit que nous sommes à l'abri dans notre beau pays de dérives de ce genre. Personne ne peut en avoir la certitude lorsque on se souvient des formidables déclarations de Monsieur Lelay il n'y a pas si longtemps, président directeur du général de TF1, qui rappelait que, je cite, parce que c'est célèbre maintenant, ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Après tout, ce que faisait ce qu'ont fait ces chaînes de télévision vénézuéliennes, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il nous faut le pouvoir pour vendre des cerveaux humains à la disponibilité des cerveaux humains à Coca-Cola. Pour l'instant, Chavez l'a emporté, mais ces médias demeurent. Alors, ils ont mis un petit peu d'eau dans leur vin. L'opportunisme oblige, le marché oblige. La majorité, après tout, oblige. Et puis, cette opposition, évidemment, prépare la revanche, prépare les prochaines échéances électorales et les prochains combats. L'un de ceux qui prépare ces combats et qui n'a jamais cessé de combattre, c'est une figure importante de l'opposition à Chavez à Caracas. C'est le patron, le directeur et le propriétaire d'un journal très prestigieux à Caracas. Ce journal s'appelle El Nacional. Et celui qui est devant nous, c'est Miguel Enrique Otero, qui est à la fois le propriétaire et le directeur de ce journal. C'est un homme cultivé, c'est un homme affable, drôle, attentif, mais qui est absolument placé dans l'opposition à Chavez et qui nous rappelle comment, au début, il n'était pas dans l'opposition.
Je suis le directeur du journal El Nacional et aussi le propriétaire majoritaire du journal.
Alors, c'était le premier journal du Venezuela. C'est un journal qu'on peut comparer au monde, à peu près, à notre monde, à nous, avec la même influence. Vous avez soutenu Chavez d'abord au départ.
Oui, c'est ça. Avant Chavez, les partis politiques qui soutenaient les pouvoirs vénézuéliens sont à peu près détruits entre eux. Et il y avait une corruption terrible, une distance très forte entre les peuples et les partis. Et les institutions étaient complètement bloquées. Alors Chavez était une personne sans compromis. Et alors, il était un grand leader, c'est ça. Alors, la majorité de la population l'a appuyé parce qu'il était l'espoir.
Il était l'espoir, et puis voilà, il a déçu une partie de, disons, la bourgeoisie de gauche, les bobos vénézuéliens ont tourné leur guêtre et ont été déçus par ce Chavez. Il faut bien se dire que on n'y va pas avec le dos de la cuillère au Venezuela dans la critique, dans la manipulation, les informations plus ou moins fausses, plus ou moins exagérées. Même si encore une fois, aujourd'hui, ça se calme un peu. Miguel Enrique Otero.
Il est devenu autocrate. Ça veut dire qu'il a développé un système où toutes les institutions sont contrôlées par lui-même. Et on n'a pas des institutions qui doivent fonctionner dans les sociétés démocratiques. Et il est devenu autocrate et répressif. Et le seul pouvoir public qui n'est pas dans les mains du gouvernement, c'est les médias. Alors, ils ont construit une campagne internationale en disant que les médias, ce sont terroristes, golpistes, qui sont les organes de l'opposition, que c'est pas vrai. Simplement parce que les médias, c'est le seul pouvoir qui est autonome en regard les pouvoirs publics en Venezuela.
Mais on sait aussi, monsieur Otero, que les médias, les télévisions comme Globo, Vision, etc., qui sont des organes de propagande, on peut appeler ça des organes de propagande, qui ressemblent à Fox News aux États-Unis, contre le gouvernement.
Mais les Globovision, c'est télévision des news. Dans Globovision, il y a des reportages sur le gouvernement, contre le gouvernement, il y a des ministres qui parlent. C'est pas un instrument de propagande. Un instrument de propagande, c'est la télévision de l'État. Ça, c'est absolument de propagande. Il n'y a pas une personne de l'opposition qui peut avoir un minute à la télévision de l'État, que c'est pratiquement la télévision du gouvernement.
Gobierno bolivariano. Ahora puedes decidir cómo quieres que sea el programa con mayor audiencia en la televisión venezolana. Escríbenos tus ideas en no más de una cuartilla al alopresidente@msi.gov.be o a través de las páginas web de
Venezuela. Alors voilà la télévision nationale qui fait de la promo pour l'émission du dimanche, la fameuse émission du dimanche, Allo Presidente, émission animée, présentée par le président de la République lui-même, mais oui, ça peut durer 5 heures, 6 heures, 7 heures, et Chavez lui-même prend des téléspectateurs au téléphone, leur parle, leur explique tout, chante une petite chanson, reçoit des invités, et conduit son émission comme ça tous les dimanches. Il avait suspendu pendant quelques mois, et puis là, il vient de reprendre. Néanmoins, évidemment, Miguel Enrique Otero, patron de El Nacion, prend vis-à-vis de la vérité quelques libertés. C'est au moins le point de vue de ceux qui s'opposent à lui. Et on est très opposés comme ça au Venezuela. Et c'est le cas, par exemple, de Margarita López Maya, qui est une chercheuse, qui est une historienne, qui est une observatrice extrêmement pointue et très consultée de ce qui se passe actuellement au Venezuela, et qui nous donne son point de vue sur le rôle des médias dans son pays.
Los medios es uno de los sectores más duros y más radicalizados.
Les médias, c'est le secteur le plus radicalement contre le processus chaviste.
Hasta donde yo lo he venido siguiendo, yo encuentro que hoy en día los sectores de los medios de comunicación, los audiovisuales y los, sobre todo los audiovisuales, se han movido en relación a sus posiciones de hace dos años.
Ce que je vois aujourd'hui, c'est que les médias, et en particulier les médias audiovisuels, ont un peu changé leur position, ont un peu mis de l'eau dans leur vin par rapport à les positions qu'ils avaient en 2002-2003.
Te puedo dar dos signos de eso. Una, las conversaciones de Gustavo Cisneros con el presidente Chávez.
Il y a deux signes de ça. La première, c'est la conversation que Gustavo Cisneros, qui est un des plus grands manias de la presse, qui est l'équivalent du Berlusconi, mais pour toute l'Amérique latine, qui a eu une conversation, une rencontre avec Hugo Chavez.
Que fue antes del referendo incluso.
Avant le référendum.
Y que empezó reconociendo a Chávez como el presidente de Venezuela.
Et ce qui s'est passé, en le rencontrant, il reconnaissait Chávez comme le président du Venezuela.
Il bajó el tono del canal 4 después del referéndum.
Et du coup, le ton qu'il y avait sur la chaîne numéro 4, qui est Venevisión, le ton anti-chaviste a baissé d'un ton, justement.
Mais là, on voyait, il y a deux jours, des nouvelles lois qui sont promulguées sur une limitation de la liberté de la presse et qui a été interprétée par les syndicats de la presse, par les journalistes, comme une loi de Bayon. L'interdiction, etc. Qu'est-ce que c'est? C'est une mise en scène? C'est un abus?
Bueno, yo no soy especialista, digamos, en la ley de responsabilidad social de los medios.
Je suis pas spécialiste de cette loi qui est la loi de la responsabilité sociale des médias.
Sí. La ley viene primeramente a tratar de regular el espacio de los medios.
Cette loi, elle vient d'abord, avant tout, pour essayer de mettre des règles dans les médias vénézuéliens.
Yo creo que si usted ve la televisión un día o dos días, se da cuenta de la necesidad que tenemos.
J'imagine que si vous avez regardé la télé un jour ou deux, vous avez tout de suite vu la nécessité qu'il y avait d'essayer d'assainir ça.
C'est une télévision infâme.
C'est une télévision complètement infâme.
Lo que sí puedo decirle es que los medios no podían aceptar una ley, no importa cuál fue.
Mais c'est vrai que de toute façon, ces médias-là ne pouvaient pas, par principe, ne pouvaient pas accepter une loi quelle qu'elle soit.
Porque, digamos, en los últimos 20 años, los medios de comunicación han hecho en el país lo que les ha dado la gana.
Et c'est vrai qu'au cours des 20 dernières années, les médias plus privés de Venezuela ont fait ce qu'ils voulaient dans ce pays.
Digamos que los partidos ya no funcionaban en Venezuela. Y siguen todavía muy débiles, pero digamos.
Et c'est vrai que les partis politiques ne fonctionnaient pas au Venezuela et aujourd'hui encore, ils sont très très affaiblis.
Pero en los 90, los medios de comunicación adquirieron mucho poder. Porque prácticamente sustituyeron.
Et c'est vrai que dans les années 90, les médias avaient énormément de pouvoir, avaient consolidé le pouvoir au point qu'ils se sont presque substitués aux politiques.
Sí, sustituyeron las funciones de los partidos. Ellos
ils ont remplacé les partis politiques.
En sus funciones d'informar.
Dans le rôle d'information.
De orientar.
De diriger, d'orienter.
De decidir si un gobierno era bueno o malo.
De dire si un gouvernement est bien ou pas.
Entonces, claro, ahora. Devolver ese poder a organizaciones políticas y a la sociedad.
Aujourd'hui, de rendre ce pouvoir à la société civile et à des organisations politiques.
Y reconocer que el Estado tiene alguna capacidad para regularlo.
Et de reconnaître que l'État a une capacité pour pouvoir décider des choses.
Es una lucha muy, muy complicada.
C'est une lutte très, très difficile.
Los millones están en chance. Aquí, ganas y ganas todos los días. A la una de la tarde y a las ocho de la noche. Por eso somos tu A y B millonario. Tú nunca sabes. Apuesta el mejor. Es chance. Y lo juegas por aquí, por tu RCTV.
Voilà, après Margarita López Maya, on retrouve Miguel Enrique Otero, je le rappelle, directeur et propriétaire d'un journal très prestigieux au Venezuela, El Nacional, qui est un homme de l'opposition. Je crois que c'est très intéressant d'entendre l'opposition aujourd'hui et qui sans doute restera longtemps l'opposition à Chavez.
Il y a deux pays qui pensent différentes. Que c'est pas idéologique. Et il y a beaucoup de personnes dans le monde qui voient Chávez d'une façon très sympathique parce qu'il a un discours anti-impérialiste contre les États-Unis. Mais le problème, c'est que Chávez n'est pas de gauche. Il est de gauche à l'extérieur. Mais au Venezuela, il n'est pas de gauche. Au Venezuela, la grande alliance, c'est avec les transnationales. Il n'y a pas un antagonisme idéologique. On doit savoir ça. C'est pas les marxistes contre les capitalistes. C'est pas comme ça. Parce que tout le monde est capitaliste. C'est la société capitaliste qui dépend du revenu pétrolier.
Votre malheur, c'est le pétrole.
On doit utiliser le pétrole pour l'investissement d'une société productive.
Oui, mais vous le faisiez pas avant.
Non, j'ai pas dit qu'avant était mieux. Avant était très mauvais. C'est la raison pour laquelle Chávez est au pouvoir maintenant. Le problème, c'est que Chávez l'a fait pire.
Mais quand on va dans les quartiers, dans les barrios et dans le milieu populaire, il y a une foi dans Chávez. Les gens espèrent beaucoup, c'est une foi presque religieuse.
Le rapport des gens avec Chávez, c'est pas un rapport idéologique, c'est un rapport installé sur les ressentiments. Ce sont des gens qui disent, bon, il y a ces gens-là, ils ont été riches pendant 40 ans, et je veux qu'ils deviennent pauvres. Mais c'est pas, ils deviennent pauvres et moi, riche, non. Moi, je continue pauvre. C'est le ressentiment.
Ouais, c'est un peu énorme, ça, non? Une espèce de revanche sociale.
La revanche sociale, c'est ça. Il est monté sur la revanche sociale. Finalement, ils ont maintenu la cohésion avec l'émission. L'émission, ce sont de l'argent qu'ils donnent aux gens. Ça ne fonctionne pas. L'émission, ce n'est pas productif. Ce ne sont pas des investissements. Ce sont des chèques qu'ils donnent aux gens. Plus d'un million de personnes qui reçoivent un chèque mensuel. Alors, c'est très ineffectif parce que ce n'est pas une structure moderne organisée. Si vous êtes chaviste, alors vous recevez un chèque.
Est-ce que la vie, votre vie a changé depuis Chavez? Est-ce que la vie de l'élite, des beaux quartiers, de la classe moyenne a changé?
Oui, a changé beaucoup. Les plus riches, ils veulent sortir du pays. Il y a beaucoup de gens qui veulent sortir du pays. Il y a beaucoup de gens qui ont sorti du pays. Ils ne peuvent pas supporter Chavez. Je connais des gens qui ont de l'argent. Chaque fois qu'il y a dans les journaux, il y a un problème très politique, ils envoient les familles à Miami ou à Santo Domingo, l'endroit où il y a une autre maison. On envoie toute la famille.
Vous êtes un peu blindé, vous avez une vie un peu blindée. Ici, on voit des barbelés partout, au-dessus des murs, des barrières, des caméras.
Oui, tout le monde sent qu'ils sont menacés. La violence, les groupes bolivarianos, sur la police, tout le monde a des bodyguards, il y a du peur.
Les marchands de barbelés se portent bien, hein?
Oui, bien sûr.
Durante los próximos minutos conoceremos hechos claves de una historia que los medios privados de comunicación ocultaron sobre la masacre de Puente Yaguno.
C'est un peu extraordinaire quand même que ce petit pays dont on ne parlait pas beaucoup, le Venezuela, soit devenu une sorte de nombril politique du monde.
Oui, on doit ça à Chavez.
Au moins ça, vous pouvez lui...
Oui, ça sera très bien pour le futur. Pour vaincre Chavez de 2006, il doit avoir un leader de l'opposition que maintenant il n'y a pas. Alors, si l'opposition ne fait pas l'union avec un leader, Chavez va gagner.
Mais est-ce que vous croyez que lui-même a le profil d'un dictateur? Pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit un dictateur, hein, ce n'est pas non. Encore un despote, ce n'est pas Pol Pot, mais est-ce qu'il a la fibre du dictateur?
Il est autoritaire parce qu'il est un militaire moyen et il a l'influence de Fidel Castro.
Il n'y a pas que Fidel Castro qui l'influence. Hein.
Non.
Il y a Jésus-Christ, il y a Nietzsche.
Non, mais... des morts. Je parle des vivres, des personnes qui existent. C'est la façon comme Fidel Castro a maintenu le pouvoir pendant 50 ans. C'est ça le rapport, c'est pas le marxisme, c'est pas le modèle économique, c'est pas le modèle éducatif non plus. Non, la raison c'est maintenir
au pouvoir.
Maintenir au pouvoir pendant ce temps assez large. Alors, si elle peut devenir un dictateur, ça c'est pas son objectif. Je crois pas. Il est autoritaire. Il va maintenir le pouvoir, mais avec élection.
Excelentísimos, reciban como siempre mi saludo patriótico bolivariano y revolucionario.
Alors, voilà comment Miguel Enrique Otero voit les choses. Pour lui, bon, on a compris, les pauvres votent pour Chavez et c'est uniquement par goût de la revanche sociale et de la jalousie. Les fameuses missions, c'est-à-dire tous ces programmes d'éducation, de santé ou de répartition des terres, enfin, tout ça, c'est pas productif et c'est du clientélisme. Bon, c'est les arguments de l'opposition, c'est les arguments qui sont déjà un peu plus politiques, un peu moins... énorme qu'au temps du coup d'État, par exemple, où les télévisions privées accusaient Chavez d'être à la fois un agent de Téhéran, l'homme liche de Castro, le sous-marin des narcotrafiquants. Ça s'est un petit peu atténué, et peut-être un peu plus fin, et peut-être que l'opposition va effectivement... préparer une opposition, tout simplement. Mais ce qui est important dans ce qui vient d'être dit, c'est le mot élection. Il se maintiendra par les élections. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans les propos qui nous ont été tenus au Venezuela, c'est cet attachement à la démocratie. On a vu des grands pays très attachés à la démocratie qui, tout d'un coup, s'en détachaient complètement. Là, on est place Bolivar, au milieu de Caracas, et on retrouve cette équipe de Globo TV qui essaye de faire ce qu'on appelle un micro-trottoir. On est où là ?
C'est la Plaza Bolívar.
Si c'est la Place Bolívar.
Ouais, évidemment. Et là c'est drôle parce qu'il y a une équipe de télé de Globovision qui est la chaîne la plus anti-chaviste, la plus acharnée contre Chavez, qui est en train de faire un micro-trottoir. On ne sait pas d'ailleurs sur quoi, mais aussitôt les gens autour disent oui. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là ?
C'est un reportage d'un programme de premières pages.
C'est un programme de journalisme qui s'appelle Première Page.
Et c'est quoi les questions que vous posez là au public?
Comment ven, qué opinan sobre el estado, la situación de las calles, las aceras,
qué necesitan? Que vous pensez de la situation des rues, des trottoirs?
Que si necesitan cualquier recreativo, plaza y así por el estilo.
Si vous avez besoin de places, de parcs pour les enfants, etc.
Et ça marche, ils vous répondent?
Bueno, esta zona está bien, por otro lado está malísimo. Pero esto es un proceso.
Ici ça va, mais c'est ailleurs, ça va moins bien, quoi. Mais c'est un processus.
Bonne chance, à toi. Si j'ai compris, il y a un militaire qui les accompagne. Non. Ils sont sous escorte, les gars de Globo, hein?
Oui. Ils sont escortés. Il reste avec eux, il est derrière.
Mais pour pas qu'ils se fassent casser la gueule, quoi, tout simplement. Il faut que la presse de l'opposition puisse travailler, quoi. C'est la nouvelle loi ressortée.
Révolution bolivarienne, une révolution baroque. C'est vrai, pour nous, à nos yeux, une révolution baroque avec un personnage central baroque. Mais une révolution s'accompagne aussi d'une révolution de la représentation. Révolution dans la représentation, c'est-à-dire dans l'image que le pays se fait de lui-même ou se donne à lui-même, l'image, la représentation, l'histoire, les bouleversements, les grands bouleversements politiques évidemment et sociaux entraînent des bouleversements aussi dans la représentation, tout simplement dans l'idée qu'on se fait de soi-même. Or, dans le monde et dans l'époque des images, eh bien l'image du Venezuela aujourd'hui n'existe pas. C'est-à-dire que le Vénézuélien n'est pas sur la photo. Il n'y a pas d'image au miroir des TV du Venezuela. On ne voit pas le Venezuela. Ça a été longtemps le cas chez nous. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a parfois, il nous arrive aux gens de médias d'arriver à représenter le pays lui-même. C'est un de nos soucis, malgré tout ce qu'on pourra dire, malgré les citations que je faisais tout à l'heure du président de TF1. Au Venezuela, pas du tout. Alors c'est une révolution et l'une des figures de ce changement au niveau des médias, c'est une jeune femme tout à fait étonnante. On est tous sous le charme et très impressionnés par cette femme qui a 35 ans, qui s'appelle Blanca Ecot et qui est à la tête, alors qui était lorsque nous l'avons rencontrée, à la tête d'une nouvelle télé qui s'appelle Vive TV, 150, 200 personnes qui travaillent pour cette télé. Et puis là, on vient d'apprendre qu'elle a été nommée une grande télé qui s'appelle Canal Ocho, qui est encore plus classique et qui diffuse à travers tout le pays. Ce qui est important et intéressant, c'est cette rencontre et la façon dont elle voit. Elle n'est pas seule, bien évidemment, elle a une expérience ancienne des TV de quartier dans Caracas, des TV dans Katia TV, c'est-à-dire une télé qui était dans les barrios de Caracas, donc une expérience longue. Et voilà la façon dont elle voit, elle et ses équipes, cette révolution des médias aujourd'hui au Venezuela.
Amigos, continuez con más de Venezolana de Televisión.
Creo que la idea era justamente ante la realidad mediática. Vivimos en medio de una dictadura mediática por que tienen los medios comerciales en el país.
Ce qui s'est passé, c'est que nous sommes en pleine guerre médiatique et face à cette guerre médiatique que nous vivons au Venezuela avec cette agressivité des médias, je pense que lorsque l'État m'a appelé à cette charge, il s'agissait en fait de créer une télévision qui réponde à un autre paradigme, faire une autre télévision qui visibilise le nouveau pays qui est en train de se construire.
Est-ce que tu peux nous faire une brève peinture du paysage médiatique du Venezuela ?
Bueno, durante muchos años, la mayoría de los medios han estado en manos privadas. De hecho, durante todo lo que fue como el auge del neoliberalismo, hubo un proceso enorme hacia la privatización de la televisión pública.
Le premier élément d'importance dans le paysage médiatique vénézuélien, c'est pratiquement monopole de la télévision, surtout privée, de la télévision commerciale, mais qui vient d'un mouvement, une évolution de quasi-privatisation de la télévision publique. Petit à petit, au fil des ans, l'idée était d'appauvrir, d'affaiblir sans cesse le secteur public de la communication de manière à pouvoir ensuite le vendre, le privatiser. Et ce processus a été stoppé justement par la victoire du mouvement bolivarien.
Cuando pierden el gobierno, solo le quedan los medios. Es decir, ellos pierden el control que tenían del Estado, pierden el control los partidos.
De fait, lorsque les partis qui sont actuellement dans l'opposition mais qui ont été vaincus électoralement, lorsque ces partis ont donc perdu le gouvernement, le contrôle politique du pays, eh bien, il ne leur reste que les médias pour agir politiquement.
Los medios lograron además dentro de su papel de tratar de convencer a las grandes mayorías de identificarse psicológica e ideológicamente con el poder dominante.
Tout en se donnant à cette tâche de faire que la population adhère de plus en plus à un modèle dominant, créer un imaginaire, des campagnes et de faire passer une image pour que le pouvoir dominant puisse se perpétuer. Il faut aussi signaler ce facteur essentiel qui a été le boom pétrolier. C'est-à-dire qu'au Venezuela, les médias ont pu, en s'appuyant sur cette apparente prospérité pétrolière, fabriquer toute une fiction, tout un imaginaire qu'on pourrait appeler la Venezuela saoudite. C'est-à-dire ce rêve basé sur un miracle économique qui finalement était élitaire.
Il y a eu cette vitrine que montraient les médias de ce qu'était Venezuela, où era un pays de Miss Universo, de mujeres bellas, et de pays pétrolero, et de un venezolano frívolo, et un venezolano sin compromiso.
Cette fiction, quelle était-elle finalement? C'était celle d'un pays rempli de Miss Univers, de jolies filles, un Vénézuélien frivole qui ne pense qu'à consommer, et puis même, tout en le reconnaissant, une sorte de corruption endémique, faite culture quotidienne, du gouvernement comme de la population. Et dans toute cette image du pays qui avait été construite par ces médias dès cette époque, du pétrole, on avait oublié, on avait invisibilisé le paysan, l'afro-américain, l'indigène, tous ces secteurs populaires qui étaient systématiquement chassés de cette image.
Usted fue músico, ¿nos cuenta?
Sí, pero me metí en la agricultura, ¿no? De más o menos como de 30 años.
Ça fait 30 ans là que j'ai arrêté la musique, c'est pour ça là, je suis pas...
Sí, se me han perdonado porque no sé...
Ouais, bueno, je voulais que vous m'excusiez parce que c'était mon métier, mais là ça fait longtemps que je joue plus, quoi.
Pero no ganaron nada.
Mais on gagnait rien, quoi.
Puro aguardiente.
C'était juste un coup à boire, quoi.
La aguardiente.
Sí, aguardiente.
Ouais. On était payé en eau de vie.
Vamos a darle, vamos a darle. Porque es la última que me queda, el resto que me queda.
Bon, c'est la dernière que je connais, là, qui me reste. Les autres, je les ai oubliés.
Alors voilà cette petite image hein, qu'on venait de voir dans votre transistor, c'est-à-dire ce vieux paysan qu'on a rencontré avec Antoine et Guy à Racal, dans ce campement de paysans en lutte pour récupérer des terres, récupérer leurs terres. Bon, ça vous semble aujourd'hui assez banal, quoi. Bon, voilà, c'est qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il dit. Eh bien, dans le paysage audiovisuel du Venezuela, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Mais pourquoi montrer un paysan? Il est en loque, il est pas beau, il est vieux, il chante mal. Ça n'a absolument aucun intérêt. C'est au moins ce qu'on se dit et ce que se disent finalement les Vénézuéliens sur quand ils regardent leur télé, quand ils sont en face de leurs médias. Et ce que dit Blanca Ecaut est tout à fait révolutionnaire aujourd'hui. Ça l'est d'autant plus qu'on a éprouvé le besoin d'inscrire le droit à produire de l'information et de la communication, mais aussi le droit de recevoir, mais aussi le droit de produire. Et c'est inscrit dans la Constitution, cette fameuse Constitution de 1999, qui figure dans ce petit bouquin que la plupart des gens ont dans leur poche, surtout évidemment ceux qui ont voté pour Chavez, et dont ils sont très, très fiers, puisque c'est des droits, c'est pas de la charité, c'est pas des ONG, c'est pas des mouvements, des squats, ou je ne sais quelle chose comme ça, sympathique, mais c'est l'État, c'est le gouvernement qui dit il y a un droit à recevoir des informations, mais aussi à les produire. C'est une forme de démocratie participative, médiatique participative. Il y a ce mot qui revient tout le temps, protagoniste, soyez des protagonistes. Et voilà, c'est maintenant cette jeune femme qui anime cette télé, qui a animé longtemps cette télé, enfin longtemps, non, depuis un an, cette nouvelle télé Vive TV, et qui est maintenant à la tête de la télé nationale du Venezuela, Blanca.
Vous êtes le seul média alternatif, une télévision alternative gouvernementale.
Lo que pasa es que creo yo que tal vez Venezuela es la única que está en este momento construyendo una democracia participativa y protagónica. Los canales públicos
dans
tienen que
estar cette démocratie participative et protagonique, il est tout à fait logique que les médias que créent cette démocratie soient au service de la population. Parce qu'on ne conçoit pas une démocratie participative où la seule participation ou la seule démocratie serait l'élection tous les 5 ans de représentants politiques. Au contraire, si on est d'accord avec cette réalité que la population participe, logiquement, les médias doivent être des médias par lesquels les gens participent et non pas des médias qui vont être au service d'un pouvoir et des courroies de commande. Et donc, je pense que ici, dans la communication, dans ce modèle de communication d'une démocratie participative, protagonique, qui s'exerce au quotidien, c'est précisément là où il y a une grande différence avec les fausses démocraties, les démocraties représentatives, où il n'y a que finalement des élections comme possibilité de participer.
Katia TV tiene un slogan y es no vea televisión, hágala. Yo creo que parte de nuestro papel es desmitificar el poder del medio, es sacar a la gente de esa especie de país de maravillas.
La televisión asociativa Katia TV, d'où je viens, a pour slogan ne regardez pas la télévision, faites-la. Et je crois que le secret véritable, c'est là qu'il est, c'est-à-dire dans la possibilité de démitifier le média, de sortir de cet espace d'hypnose, de ce pays merveilleux, pour se retrouver vivant, non pas scotché à l'écran, mais justement en train, en tant que sujet, de faire la télévision. C'est-à-dire de retrouver le pouvoir même et le plaisir, sans doute, d'être le sujet de la télévision. Et cet objet qui avait été fabriqué par les médias, eh bien maintenant, l'éliminer peu à peu pour le remplacer par un véritable sujet, quelqu'un qui communique vraiment.
Merci à tous, merci à Blanca Ecaut, à Thierry Deron qui la traduisait. Merci à Georges Bartoli, à Pablo Ekel, Merci à Wendy Werling Duran. Mais ça, on les verra demain toutes les deux à Communaré Roro. Et là, on verra, parce que là, on a beaucoup parlé aujourd'hui, hein. Et demain, on vivra la première télévision rurale du Venezuela avec ces deux filles superbes qui animent et qui dirigent cette télé. Merci à Margarita López Maya. Merci à Miguel Enrico Otero de El Nacional. Quelques sites sur le Venezuela pour l'information, c'est Rizal, R-I-S-A-L, rizal.collectif avec un S. .net, pour la musique www.caribefolk.com, et pour les photos, je vous rappelle le site de l'ami Georges Bartoli, www.gbartoli.com. Et puis dans le cadre du festival des bobines sociales du 21 au 23 janvier au studio de l'Ermitage dans le 20e à Paris, projection le dimanche 23 janvier à 19h du documentaire de Thierry Nouel, Grève à France 3. Thierry Nouel a suivi les grèves de 97 et 2002 dans cette chaîne de la télévision française. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait raccord avec notre sujet d'aujourd'hui. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission La Basse J. Suite technique aujourd'hui, Edwine Caron et Stéphane Devernay. L'équipe de La Basse J. Suite, c'est Yann Chouquet, c'est Raphaël Moutard, c'est Guy Vantil, qui est reporter et traducteur dans cette histoire-là. Antoine Chao aussi. C'est Pascal E. Pascariello et c'est Christophe Imbert qui s'occupe du répondeur, dont le numéro est 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 17h, toujours au Venezuela. Dans 1 minute 37 de réclame, vous retrouvez Frédéric Bonneau avec Charivari. Salut, à demain 17h. Salut!